Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Une histoire aujourd'hui que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'en ai fait l'expérience tout à l'heure avec quelqu'un qui me demandait « Qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui ?» Je lui ai répondu « La vie d'Alain Colas ». Le type m'a regardé avec de grands yeux et j'ai compris qu'il ne savait pas qui c'était. Et c'est vrai que ça n'est pas tout jeune. Alain Colas est un grand navigateur qui a disparu il y a près de 40 ans au cours de la première édition de la Route du Rhum à la voile. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On n'a jamais retrouvé un boulon de son bateau Manu Reva. Ah là, je vois un sourcil qui se lève. Où es-tu Manu, Manu Reva? La chanson d'Alain Chamfort. Ben, c'est de lui qu'on parle. C'est d'Alain Colas et de son bateau. Pour le débrief, j'ai invité celui qui sans doute le connaissait le mieux au monde. Bonjour Jean-François Colas.
Oui, bonjour.
Vous êtes son frère, son petit frère.
Hein. Oui, tout à fait.
Et vous avez partagé sa courte carrière du début à la fin.
Alain a disparu à 35 ans et moi j'allais sur mes 32 ans. Et j'ai vécu 32 ans avec Alain et j'ai partagé toutes ses aventures. Il fallait absolument que son petit frère soit toujours avec lui partout.
Vous étiez sur le bateau jusqu'à la dernière seconde?
Oui, oui, oui. À partir du moment où Alain est arrivé en 72 pour prendre le départ de la Transat, j'ai toujours, d'abord ma famille, mon père m'a dit « maintenant tu vas aider ton frère
ouais. »
parce que de février 72, au départ de la Transat, on a travaillé tous les deux à préparer le bateau pour cette course. C'est toujours moi qui lui ai envoyé la grand voile, c'était symbolique pour moi, qui ai toujours été le dernier à quitter le bord et le premier à l'attendre de l'autre côté de l'océan.
J'ai écrit cette histoire avec Quentin Mouchel, la réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Ce qu'il y a d'unique dans l'histoire d'Alain Colas, c'est qu'il a grandi loin, très loin de la mer. Il n'a pas enfilé de ciré jaune à l'âge de la barboteuse. Il n'a pas fait de dériveur avant d'apprendre à marcher. Il n'est pas allé pêcher au large avec son père ou son grand-père. Il n'avait pas la mer dans le sang, mais alors pas du tout. Alain Colas est un enfant de la France profonde, rural, un bourguignon, un petit gars de Clamecy dans la Nièvre, qui avait la gagne dans la peau. C'est tout. Mais je vous concède que son histoire commence sur l'eau. Mais toujours pas l'eau de mer, trop loin. L'eau de la rivière qui traverse son patelin de Lyon, Clamecy. On est en mai 1959, Alain a 16 ans et il est furax. La mairie a démonté le plongeoir sur la plage de la Tambourinette au bord de Lyon. Non mais vous vous rendez compte? Moi, je vous le dis, ça ne va pas se passer comme ça. Mais ça veut dire quoi? Les jeunes veulent faire un peu de sport. Et voilà, on nous enlève le plongeoir. Et donc, le lendemain, il écrit une lettre ouverte au maire dans le journal local. Le maire qui finit par le recevoir. Je suis désolé, jeune homme. Mais on va pas le reconstruire, le plongeoir. Bon, eh bien dans ce cas, aidez-moi à créer un club de canoë-kayak. Du canoë-kayak. Bon, pourquoi pas. D'où ça lui sort cette histoire de canoë-kayak? Oh, son père en faisait, et il y en a un vieux qui traîne dans le garage. Et donc c'est parti. Alain gère tout, de la création de l'association à la fabrication des bateaux. Il se fait prêter des moules par un club de Nevers et il sollicite des amis bricoleurs. Il n'a pas un rond, il se démerde. Et il commence à s'entraîner avec ses potes de Clamecy. Avec un état d'esprit bien particulier. Hein. Un truc qu'il a en lui depuis tout petit. La gagne. Que ce soit aux billes, au baby-foot ou au basket, Alain a la gagne. Il ne supporte pas de perdre. Et là, dans cette histoire de canoë et kayak, c'est pareil. Il n'arrête pas de répéter. En compétition, la place de deuxième n'existe pas. Et si je peux vous donner un conseil, vous partez à bloc, ensuite vous accélérez et vous terminez au sprint. Et un an après la création du club, une année seulement, hein, le petit club de Clamcy se hisse en championnat de France et finit troisième des championnats de France. Incroyable! Qu'est-ce qu'il en tire, lui, Alain, de cette expérience? Eh bien que quand on veut, on peut. Que quand on s'accroche, on y arrive. Que rien n'est impossible. Qu'on peut aller au bout de ses rêves. Et ça, ça n'est pas près de lui sortir du carafon. Un an plus tard, Alain se retrouve à Paris, étudiant à la Sorbonne, en fac d'anglais. Et je vous le dis tout de suite, la ville, c'est pas du tout son truc. Il y a trop de monde, il y a trop de bruit, ça l'angoisse. Alors un jour, son père voit une petite annonce dans Le Monde. On cherche un lectureur au St. John College de Sydney, en Australie. Il a fait des études d'anglais, ça le branche. Et puis là-bas, il y a de l'espace. Il prend donc un cargo pour Sydney, et c'est là-bas qu'il découvre la mer et la voile. La baie de Sydney est constellée de voiliers. Tous les week-ends, il y a des régates. Alors pour l'instant, il les regarde en spectateur, mais ça le fascine. Et ça doit se voir, parce que quelques mois plus tard... Alain, ça te dirait de faire de la voile avec nous? On cherche un équipier pour une journée. Je pense que tu peux faire l'affaire. C'est comme ça que ça commence. Et il dit yes, bien sûr. Il dit yes tout de suite. Non pas parce qu'il est amoureux de la voile, il n'en a jamais fait, mais parce qu'il est curieux. Et aussi parce que ça colle avec son besoin viscéral d'aventure. Et le voilà donc parti. Et une fois au large, le clapotis contre la coque, le bruit du vent dans le gréement, cette sensation de glisser sur l'eau, c'est une révélation. C'est un coup de foudre. C'est pour moi. À peine rentré au port, il va à la bibliothèque du St. John College et il rafle tout ce qu'il y a sur la voile. Et il y passe toute la nuit à se gaver de jargon nautique. Et pendant un an, il est candidat comme équipier dans toutes les petites régates. Et puis au bout d'un an, faire des ronds dans l'eau dans la baie de Sydney, ça finit par le barber. Il a entendu parler d'une course très prestigieuse, la plus grande, la Sydney Hobart. Alors il va voir l'équipage néo-zélandais.
Hello, do you need a cooker? I'm French, I can cook.
Un Français, pensez-vous, qui propose d'être cuisinier. Il l'embauche. Sa première course, Alain l'a fait en cuisine. Enfin, le reste du temps, il est sur le pont. Il mate, il n'en perd pas une miette. Et assez vite, il n'a Dieu que pour un bateau, un monocoque, Pendwick 3. Et surtout pour le bonhomme qui le barre, Eric Tabarly, un Français comme lui, qui est l'un des skippers les plus célèbres du monde à l'époque. Alors pendant toute la course, il lui tourne autour. Et à la fin, Tabarly gagne la Sydney Hobart et il vient le voir avec une sacrée proposition.
Dis donc, la plupart de mes gars rentrent en France. Et moi, j'ai envie de ramener mon Pendwick en Nouvelle-Calédonie. Ça te dirait d'en être ?
Drôle de question. Évidemment, il ne rêve que de ça. Et voilà donc Alain Colas sur Pendwick 3, aux côtés de son idole, en route pour la Nouvelle-Calédonie. À bord, il n'y a que des Bretons, des voileux depuis le biberon. Alors au début, le petit gars de la Nièvre qui s'est entiché de la voile, ça les fait sourire gentiment. Mais petit à petit... il l'apprivoise. À la mi-janvier, Pendwick 3 arrive à bon port. Ils abordent à Nouméa et vont ensuite mouiller à Ouvéa. Décor de rêve. Vous imaginez. Mais un matin, Tabarly réveille tout le monde.
Les gars, ça commence à tempêter. Ça pousse à 70 km/h, on bouge.
ils réussissent à s'extirper du lagon, direction Nouméa. Et là, c'est pas sur une tempête qu'ils tombent, ni sur des vents à 70 km/h. Ils tombent sur un cyclone, 200 km/h. Pendwick est à l'horizontale, dans le roof, tout valdingue, une essoreuse. Et à un moment, Alain, qui a trouvé refuge sur une couchette, blanc, valdingue à son tour. Et quand c'est fini, ouf, ils s'en sortent, un peu miraculeusement. Putain de baptême du feu! Alors où en est-il de sa vocation, le bourguignon? A-t-il toujours la foi? C'est l'épreuve de vérité, hein? Eh bien oui, c'est exactement l'idée qu'il se fait de l'aventure. Et ça, c'est un énorme atout. Cola n'a peur de rien, et sûrement pas de la mer, ni du vent. Vaut mieux. Et ce cyclone va sceller une complicité qui se concrétise 3 mois plus tard, en mai 1968. Alain rejoint Éric Tabarly à Lorient, sur le chantier de Pendwick 4, le nouveau joujou de Tabarly, un trimaran, autrement dit pour l'époque, un ovni. Tabarly veut embarquer dessus dans la prochaine transat en solitaire. On n'a jamais vu un trimaran dans une course en haute mer. C'est gonflé! Le chantier, évidemment, a pris du retard. Je vous rappelle qu'on est en mai 1968, la France tourne au ralenti. Et donc Tabarly a besoin de petites mains pour les finitions. Alain Cola n'a pas hésité une seconde. Il est totalement enthousiaste. Un soir, il appelle son frère.
Oh dis donc, tu verrais l'engin? Une espèce d'araignée géante, un terrain de tennis sur l'eau. 20 m50 sur 10 m60, 120 mètres carrés de voilure, tu te rends compte? Et alors il bourre, on atteint les 18 nœuds, tu vois? C'est deux fois plus que Pendwick 3.
Là, je vous la fais courte. Le trimaran n'est pas au point, Tabarly doit abandonner dans la transat. Et aussi dans la course qui suit. Mais ne retenez qu'une seule chose de cet épisode. Alain Cola a assisté au départ de la transat. Il s'y est vu. Un jour, je prendrai le départ de cette course moi aussi. En attendant, Alain Cola roule toujours pour la maison Tabarly. En 1969, il le rejoint en Californie. Éric s'est engagé, avec Pendwick 4, dans une course en solitaire, Los Angeles, Honolulu. L'histoire est très drôle parce que la course est réservée au monocoque. Il ne le savait pas. C'est lui qui gagne, loin devant, hein. Il a 19 heures d'avance. Mais il est hors classement. Et le soir même, Alain assiste à une scène absolument incroyable. Totalement inattendu. Il voit Tabarly qui monte sur Pendwick 4 et qui accroche une pancarte en contreplaqué. Il s'approche. Au nom de Dieu, il y a écrit « For sale », à vendre. Tabarly a des problèmes avec le fisc, il vend son joujou. Et dans la tête d'Alain Cola, ça va très vite. Il se rue sur lui. «
Éric ! Éric, je me porte acquéreur. Tu veux combien ?»« 230 000 francs. »
Alain dégaine son carnet de chèques et il lui fait un chèque. De ce qu'il a, hein, c'est-à-dire de ses économies, c'est-à-dire pas assez. À peine un quart de la somme. Alors juste après, il appelle son frère.
« Allô ? Jeff ? Tu vas pas me croire, Jeff. J'ai la possibilité d'acheter Pendwick 4. Alors d'abord, il faut que tu m'envoies de quoi me payer un billet retour. Je dois rentrer en France pour trouver du pognon. »
Ce bateau, il le connaît comme sa poche. Avec Tabarly, il a déjà parcouru 17 000 milles à bord. 3 fois la transatlantique. C'est une occasion inespérée de se lancer. Le lui acheter, c'est une chose. Mais le lui payer, c'en est une autre. Il a vidé son livret de caisse d'épargne. Il fait un petit crédit auprès d'un organisme de pêche, mais ça ne suffit pas. Alors pour le reste, il fait un deal avec Tabarly.
Si tu veux bien, je te paierai par mensualité. Un peu tous les mois, jusqu'à la prochaine transat. J'ai l'intention de la faire. Ok.
Et il prend donc possession de Pendwick 4 en Nouvelle-Calédonie. Et maintenant, il veut le ramener en Bretagne. Comment ? Eh bien tout seul. Il n'a jamais navigué tout seul, c'est gonflé. Mais comme son objectif, c'est la transat en solitaire, autant se jeter à l'eau tout de suite. Alain Colas quitte la Nouvelle-Calédonie fin août 1971, avec un sextant, une montre, une boussole, une radio, sa bite et son couteau, comme on dit. Et quatre mois plus tard, à la veille du nouvel an 72, il voit pointer au loin une masse rocheuse, c'est la pointe sud de l'Afrique, c'est le fameux Cap de Bonne-Espérance. À un moment, il croise des voiliers qui participent à une régate, il leur fait de grands signes.
Eh oh ! Eh oh !
Et il leur balance un sac hermétique.
Please, can you send this to France? It's a message from my parents.
Le sac contient une cassette audio pour ses parents à Clamcy. Ce sont ses vœux de bonne année. Et ensuite, il attaque la remontée des côtes africaines vers la Bretagne. Et deux semaines plus tard, le voilà en zone tropicale. Un vent torride, des déluges de pluie, il découvre les bonheurs de la course en solitaire. Pendant des jours, il ne dort que une heure, deux heures maximum par nuit. Il passe les îles du Cap-Vert et il arrive au niveau des Canaries. Jusqu'ici, il a été épargné par les tempêtes. Et là, d'un coup, le ciel se couvre, le vent forcit, des rafales de 100 km/h, la mer se creuse, des vagues de 5 mètres, il tombe une pluie glaciale, il y a du brouillard, il ne voit pas à 3 mètres, c'est sa première tempête en solitaire. Mais ça passe. Et en février 1972, le voilà qui arrive à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Vidé, rincé, mais avec une certitude. Il est capable d'affronter une transat en solitaire. Et donc, il s'engage dans la prochaine. Le 17 juin 1972, il prend le départ de Plymouth, direction Newport. Ils sont 52 à se lancer. Personne ne le connaît. Il est très loin de figurer parmi les favoris. Le favori s'appelle Jean-Yves Terlin. Il a un monocoque énorme, 39 mètres. Ça ne l'empêche pas d'être confiant.
Ce bateau, c'est une histoire d'amour et surtout l'histoire d'une idée fixe, courir la transatlantique en solitaire. Elle a lieu en juin prochain. Elle se court de Plymouth, Angleterre, à Newport, en Amérique. Ça représente 3000 milles. Le record, c'est plus de 3 semaines, c'est 26 jours. Et moi, 3000 milles, dans l'océan Indien, je les ai torchés en 12 jours et 14 heures.
Alain dit à son frère qu'avec Pendwick 4, il va torcher la traversée de l'Atlantique en 20 jours. Mais trois jours après le départ, son pilote automatique le lâche.
Putain ! Saleté de machine, bordel ! C'est pas possible ! Tu peux pas me faire ça !
S'il n'arrive pas à te réparer, il ne pourra plus dormir ni même se reposer. Et donc il se harnache. Il saute dans l'eau glacée et pendant une demi-heure, dans l'eau, il bricole et il parvient à réparer son pilote automatique. Cinq jours plus tard, c'est son régulateur d'allure qui le lâche, en pleine nuit, en pleine tempête, avec des vents à 100 km/h. Et là encore, avec sa lampe torche, il bricole et il répare. Il s'était bien préparé, le diable. Il la connaît bien, sa machine. Le 27 juin, 10 jours après le départ, il est à mi-parcours, il est au beau milieu de l'Atlantique, sous un soleil de plomb. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? À 3 kilomètres, un autre concurrent de la course. Jean-Yves Terlin, le favori, sur son trois-mâts, vendredi 13.
C'est Terlin. Alors là, c'est pas croyable. Je peux pas me tromper, il y en a pas 36 des bateaux comme celui-là. En plein milieu de l'Atlantique. Les deux bateaux les plus extrêmes de l'épreuve qui se retrouvent. Mais c'est même pas pensable.
Quelques jours plus tard, les avions repèrent vendredi 13. Ils annoncent qu'il est en tête. Et là, tout le monde s'attend à une victoire de Terlin. Tout le monde. Mais le 8 juillet, après 20 jours de course, qui franchit la ligne en premier? C'est pas Terlin, c'est Colas, c'est Pendouic 4. Il remporte la Transat en 20 jours, 13 heures et 15 minutes. Il explose le record de 6 jours pour sa première course en solitaire. Lui, le bourguignon qui n'a découvert la voile qu'il y a 6 ans à peine. Au lendemain de sa victoire, Alain Colas nourrit un nouveau projet. Il veut faire le tour du monde en solitaire. Le premier tour du monde en trimaran. Et c'est là qu'il décide de changer le nom de son bateau. À partir de maintenant, le bateau construit par Tabarly va s'appeler Manureva. En tahitien, ça veut dire « oiseau du voyage ». Et pour ça, il prépare Manureva. Il a peur des 40e rugissants et du Cap Horn. Il a peur de chavirer, et donc il fait installer des sortes de moustaches sur les flancs de la coque principale. Il la consolide aussi, cette coque, avec de l'alliage en aluminium. Et surtout, en cas de chavirage, il aménage une trappe dans la coque centrale. Un panneau qu'il pourra déboulonner si le bateau se trouve cul par-dessus tête, pour sortir à l'air libre. Il apprend avec un chirurgien à se recoudre d'une seule main en cas de blessure. Et il prend les conseils d'un vieux briscard de 85 ans, le commandant Léon Gauthier, un capitaine au long cours qui a passé 22 fois le Cap Horn. Et c'est parti. Le 8 septembre 1973, Alain Colas se lance pour son tour du monde à Saint-Malo. La foule s'est agglutinée pour le voir prendre le large. Il est célèbre maintenant. Le commandant Gauthier est sur le quai.
Alain Colas, cette carte a servi à passer 22 fois le Cap Horn. Avec cette carte, je suis toujours rentré à bon port. Alors je vous la confie avec prière de me la rapporter.
Je n'ai pas le temps de vous raconter cette course, mais il réussit son pari. Il réalise le premier tour du monde en multicoque en 169 jours. Il bat le record réalisé en 67 par Chichester, 32 jours d'avance. Peine arrivé. Il se lance dans un nouveau projet. Il veut s'offrir un nouveau bateau, un clipper. Un 4-mâts de 72 mètres de long et 1000 mètres carrés de voile. Il le dessine lui-même et il charge l'arsenal de Toulon de le fabriquer. Et en attendant, il continue de naviguer sur Manureva. En juin 1975, la tuile. Il est à bord de Manureva. En jetant l'ancre, sa jambe est emportée par un cordage, elle est broyée. Broyée, il réussit à se dégager avec son opinel, il évite l'amputation de justesse. Mais il se retrouve avec des broches et avec des vis. Sa mère vient le voir à l'hôpital.
Mon pauvre chéri, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Maman, ce qui est arrivé, et j'aimerais qu'on n'en parle plus. Hein. Moi j'ai un bateau à faire construire.
Et effectivement, depuis sa chambre d'hôpital, il continue de piloter la construction de son bateau. Il le met à l'eau en février 1976. Il le baptise Club Méditerranée, du nom de son sponsor. Mais quand 2 ans plus tard, il décide de s'engager dans la première route du Rhum, une transat en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, il n'y va pas sur son Club Méditerranée, hein. Il choisit de faire son tour du monde sur son Manureva. Le bateau n'est plus tout jeune, mais il est plus rapide. Et puis ils se connaissent tellement bien, tous les deux. Le 6 novembre 1978, Alain Colas sur Manureva quitte le port de Saint-Malo. La vérité, c'est qu'il n'est pas très en forme. Depuis son accident, il boite, il est fatigué, il a les traits creusés. Mais il fait un bon départ. Dans le golfe de Gascogne, il est dans le groupe de tête. Régulièrement, il fait des points par radio. partir de ce moment-là, Alain Colas ne donnera plus jamais, jamais de nouvelles. Et on ne retrouvera jamais aucun morceau de Manu Reva. Alain Colas et son bateau ont disparu, corps et biens. François Colas est là avec moi, le petit frère. Chanson de Serge Gainsbourg, chantée par Alain Chamfort. Vous êtes content qu'elle soit là, encore, cette chanson qui fait que 40 ans après, on n'a pas oublié.
Mmh, tout à fait. Cette chanson, ça a été difficile pour moi de l'entendre parce qu'elle est arrivée très tôt après la disparition d'Alain. Et j'avais l'impression que c'était un peu des...
Une exploitation,
ouais, puisque personne n'a
ne vous a prévenu,
ne nous a prévenu, n'a téléphoné à mes parents ou écrit un mot.
C'est Gainsbourg.
Hein. Ouais, oui, il y a le producteur aussi.
Et finalement, avec le temps,
oui, c'est à chaque fois cette chanson me remue. Où es-tu, Manu Reva? Où es-tu, Manu Reva? C'est une litanie qui tourne dans ma tête depuis 40 ans.
Alors, on a dit beaucoup de choses après la disparition de votre frère, il y a eu beaucoup de fantasmes autour de cette disparition. On a dit, par exemple, qu'il se planquait sur une île déserte parce qu'il avait des dettes. On l'a dit.
Oui, c'est possible. Mais pour moi, c'est tellement ridicule. Quand j'entends ces paroles, ça me fait rire. Car
il avait 500 000 francs de dettes. C'est vrai, ça.
Ah bah, comme toute entreprise, hein, le Club Méditerranée, c'est un bateau de 72 mètres, et construire un bateau de 72 mètres, c'est comme une très grosse entreprise, eh bien, ça coûte cher, il faut avoir des crédits avec des banques. Alors effectivement, quand on vient de construire une telle entreprise,
il y a
des dettes, c'est évident.
Et les compagnies d'assurance qui assuraient Club Méditerranée ont mené leur petite enquête, et ils ont envisagé qu'ils puissent se planquer, vrai ou faux?
Je ne sais pas. En tout cas, il a été statué par un tribunal à Papeete la mort physique de mon frère. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu faire, pour mon père, il a fallu faire une demande parce qu'effectivement, il y avait des dettes. Et le bateau, à ce moment-là, Alain n'étant plus là, et c'était lui le chef d'entreprise, c'était par lui que tout pouvait se faire. Il n'était plus là et il fallait que les assurances prennent en charge.
Votre père lui-même a envisagé, hein, à un moment donné, que peut-être frappé par un hauban, Alain soit devenu amnésique, qu'il soit quelque part sur une île, incapable d'appeler au secours.
Non, ça c'est...
C'est le mythe aussi, ça.
Oui, ça c'est le mythe, c'est impossible. Alain a toujours fait face à ses engagements. Et là, il avait un sacré engagement. Il venait d'avoir deux petits garçons, deux jumeaux, qui étaient nés 6 mois auparavant. Ouais. C'est quand même un engagement dans la vie. Hein.
On l'a cherché beaucoup. 450 heures de vol de Breguet Atlantique, 36 missions, 5 millions de kilomètres carrés ont été survolés. C'est 10 fois la surface de la France.
Alors ça, c'est ce qui a été dit.
C'est pas assez.
C'est ce qui a été dit à la radio, c'est ce qui a été à la télévision. Et moi qui étais en Guadeloupe, et qui étais inquiet, qui connaissais les pilotes du Breguet Atlantique qui étaient là, je peux témoigner que c'est pas tout à fait la réalité. Car le Breguet Atlantique qui était là pour faire valoir le savoir-faire de Marine Nationale. Son but, sa mission, était de tourner autour de la Guadeloupe avec des journalistes pour faire connaître ce qu'est un Breguet Atlantique. D'accord. Mais c'était pas du tout pour faire des recherches. Il y a eu un seul vol de recherche, j'y étais, c'était au mois de décembre, 15 jours après l'arrivée du premier. On a fait 8 heures à environ 8-10 000 mètres, on est descendu à 50 mètres au-dessus de l'eau. On a fait 2 heures de recherche avec des couloirs de 200 km de part et d'autre de l'avion, disons que le radar couvrait. En 2 heures, on a fait l'équivalent de la surface de la France, on est remonté à 8000 mètres, retour sur la Guadeloupe,
et
c'était le vol sur zone, voilà.
Votre opinion, à vous, c'est qu'il a coulé, tout simplement?
Oui, c'est une certitude maintenant. Ah, il n'est pas là.
On n'a jamais retrouvé.
On n'a jamais rien trouvé.
Un morceau du bateau.
Et c'est évident que le bateau a coulé. Alain, quand on était dans cette phase d'attente, qu'il n'y avait plus de nouvelles, où on s'inquiétait, où je m'inquiétais, parce que c'était tout à fait anormal, on avait prévu avec Alain et espéré une première partie de la course avec du très mauvais temps. Parce qu'il y avait des nouveaux trimarans et des nouveaux multicoques, mais qui n'étaient pas
au point comme
l'était Manureva. Mmh. Et donc, il fallait que ce très mauvais temps puisse les retarder. Et c'est ce qui s'est passé. Ces grands trimarans, où certains même ont dû abandonner, et d'autres ont dû prendre la route la plus longue, passant par les Canaries. Alors qu'Alain est resté sur la ligne directe, et quand il a franchi les Açores le 13 ou le 14 novembre, je me suis dit, ça y est, Alain a gagné son pari. Il a tenu dans le très mauvais temps, dans les tempêtes, il a tenu tête avec les monocoques, et là maintenant il va avoir du temps variable, puis l'Alizé du Nord-Est,
qui va
l'amener
jusqu'à
Pointe-à-Pitre. Et là, on connaît, avec deux tours du monde, on connaît parfaitement les possibilités de ce bateau dans ce type de temps.
J'aimerais qu'on parle, Jean-François, de ce profil très terrien qui est le sien, qui est aussi le vôtre. Vos parents avaient une faïencerie à Clamecy, dans la Nièvre, que vous avez dirigée vous-même pendant des années et transmise aujourd'hui à votre fils, c'est ça, hein? C'est une affaire de famille. La voile, c'est l'explication que j'ai donnée et que j'ai trouvée, collée à son besoin viscéral d'aventure.
Oui, tout à fait. La voile... découverte en Australie, puisque jusqu'à là, nous, on n'avait jamais navigué, ni Alain ni moi, naturellement. Ça a été cette découverte. Avant, on était de Clamecy, mais il y avait quand même cette envie d'aller sur l'eau et d'aller au-devant des autres. Hein, puisque Alain avait toujours ce besoin de partage, d'aventure, et la création du Canoë Club était déjà en lui-même une aventure.
Oui.
Par la suite, étudiant, il voulait aller faire un grand voyage en mini-car, hein, comme ça se produisait un peu à cette époque-là, aller voir les hommes d'homme à homme. Et puis, les deux amis qui étaient étudiants en médecine, Alain, lui, avait avancé sur le projet. Il avait tout de suite contacté les Mahusiers, qui étaient à l'époque, faisaient des conférences et voyageaient en famille dans ce genre de mini-car. Alors, mais l'aventure s'est arrêtée alors qu'Alain avait vraiment pris déjà des contacts partout.
La gagne, vous confirmez, j'adore cette phrase, j'aimerais me la noter dans un coin ou surtout ne pas l'oublier. La place de deuxième n'existe pas, vous partez à bloc, vous accélérez, vous terminez au sprint.
Oui, ça c'est du Alain complètement. Alors bon, il y a un petit côté clin d'œil là-dedans, mais le fond est vrai.
C'était un intello, ce qu'il rendait assez atypique aussi dans ce milieu. Il avait fait des études et abordait d'ailleurs la voile de manière livresque. Je raconte cette scène qui se déroule en Australie où il prend tous les bouquins qui existent. C'est moi, Tessier, qui réveille cette envie
pas,
de voile.
Non, je sais pas si c'est moi, Tessier. Alain a toujours été un boulimique de lecture, mais depuis la plus tendre enfance. Moi, mes premiers souvenirs de Noël, je me souviens qu'Alain réclamait mes parents des livres. Ouais. Qu'il voulait, c'est des livres. Alors des livres, toutes sortes de livres, alors plus jeunes, des livres d'aventure, alors peut-être Conrad, peut-être toutes sortes d'aventures, et aventures peut-être aussi sur mer. Et puis, cette boulimie de la lecture faisait qu'il lisait très très vite, et puis qu'il ingérait très très rapidement.
Et il a eu du mal à se faire accepter par les Bretons, je dis les Bretons pour simplifier, mais par les voileux de naissance.
Oui, certainement. Hein. Il est arrivé en 72 comme un chien dans un jeu de quilles, hein, et puis tout de suite, il arrive, personne ne le connaît.
Il est bavard alors que eux sont taiseux.
Ah oui, lui est bavard. Enfin, il est bavard. Non, il aime partager.
Ouais.
Et puis c'est son métier. Il était lectureur la première année, mais un an après, il était maître de conférence, officiellement maître de conférence à 22 ans en littérature française.
Ouais.
Ce qui est quand même pas mal à 22 ans d'arriver à faire ça.
En Australie. Hein.
En Australie. Hein. Mmh. Et donc, ce qu'il aimait, c'était partager son aventure. Et il l'a fait très rapidement lorsqu'en mai 72, il est arrivé en France et qu'il a retrouvé Eric Tabarly. Il est devenu freelance, pour pouvoir vivre, pour pouvoir assurer le pain quotidien, eh bien, il s'est mis à écrire. Alors, il avait un sujet formidable, Tabarly, ce monstre extraordinaire qui était la construction de Penduic 4. Il écrivait, et Par la suite, il a appris à se servir d'un appareil photo et il faisait aussi de la photo et puis il était rentré dans ce monde du journalisme.
Ça va être son premier job. Il va faire des piges oui. pour le journal de Tintin.
Ah, oui,
entre
oui.
autres choses.
Entre autres choses, oui.
Parce qu'à un moment, il lui faut de l'argent pour payer Panouik, et donc c'est un des métiers qu'il exerce pour payer, pour rembourser Tabarly.
Oui, parce que Alain voulait pouvoir continuer à naviguer, à apprendre le métier, comme il me disait. Le métier avec un grand M majuscule. Hein.
Oui.
Pour lui, c'était quelque chose. Un vrai métier.
Mmh. Hein.
Et en même temps, et pour cela, ben, fallait continuer à naviguer. Et puis, comme il avait l'écriture facile, et puis l'envie d'écrire et de partager, ben, il a contacté des agences type Gamma, et qui ont diffusé ses reportages, qui ont diffusé ses photos, et qui lui permettaient d'assurer la cantine.
Hein. Ce qui, évidemment, ne devait pas plaire aux Bretons taiseux de l'époque, qui n'aimaient pas les journalistes, qui couraient pas après, qui préféraient rester entre eux à boire des coups.
Oui, peut-être chez...
C'est un des premiers navigateurs qui va vers les journalistes.
Oui, parce qu'il a parfaitement compris et analysé. Alain avait cette faculté d'une très grande analyse et de faire la synthèse extrêmement rapidement. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vu chez lui de façon exponentielle, vraiment exponentielle. Et ça allait de très très vite. Et il a tout de suite fait l'analyse que pour pouvoir... aller sur les mers, traverser des océans avec des bateaux compétitifs, il fallait pouvoir les construire. Pour pouvoir les construire, il faut des sous. Et quand on n'est pas le fils de Rothschild, ou si on n'a pas un derrick de pétrole quelque part, eh bien, il faut se débrouiller. Mmh. Alors là, c'est là toute l'expérience du canoë-kayak. Eh bien, on va faire avec et on va se débrouiller. Et lui, pour ça, il a compris qu'il fallait, avec les médias, intéresser le grand public.
Et je voudrais qu'on parle de sa relation avec Éric Tabarly. Il avait, lui, une fascination, une admiration totale pour Tabarly. Ma question, Jean-François, est-ce que l'autre le lui rendait ?
Alors oui, il avait une admiration, une grande admiration, comme peut l'avoir le compagnon vis-à-vis du maître. Hein. Je parle.
C'était son maître.
Oui, c'était son maître, comme l'artisan d'art a un compagnon, a d'ailleurs non pas un ouvrier, mais un apprenti qui va devenir le compagnon,
oui.
et qui un jour, cet apprenti va lui aussi devenir maître artisan et va faire son chef-d'œuvre.
Mmh.
Et Alain. On est aussi d'une... Mon père avait cette optique, était aussi maître faïencier et était parti de rien.
Donc il y avait ce respect du maître.
Il y avait ce respect du maître qui transmettait le savoir.
Mmh.
Et il a toujours respecté Éric pour la transmission du savoir. Ben, faut dire aussi qu'Alain observait beaucoup et comprenait très vite.
Mais alors pourquoi est-ce que Tabarly, quand il décide de mettre son Panouik 4 en vente, au lieu d'aller accoler ce panneau for sale sur le bateau, va pas voir directement Colas en lui disant ça te branche ?
Ah, ça, c'est
il doit savoir que l'autre a envie.
Je sais pas. Mais Éric avait certainement une idée en tête, c'était de montrer avec cette course en parallèle entre San Francisco et Honolulu, où il y avait les plus grands bateaux de la côte est des États-Unis et les bateaux néo-zélandais, les plus grands et plus beaux bateaux de course australiens, néo-zélandais et de cette côte est, bateaux qui appartenaient tous à des milliardaires. Donc... Tabarly devait avoir l'idée
de le vendre le plus cher possible.
De plus vendre, oui, de plus vendre que ce bateau, en ayant démontré sa vitesse, allait certainement intéresser un de ses grands propriétaires.
Un des milliardaires.
Mais ce qui n'a pas été le cas parce que.
C'est Colas.
Oui, Colas,
son carnet de chèques et son compte de caisse d'épargne.
Et puis Panouik 4, il était construit pour des commandos marines. Hein.
Mmh. Oui. Fallait savoir.
Oui, puis il fallait avoir envie de naviguer à bord. Hein.
À votre avis, quand il le lui vend, il y a déjà une pointe de jalousie chez Tabarly ?
Je crois pas, mais je pense qu'il s'est dit bon, il était content de le vendre parce qu'il avait besoin. Et il avait un besoin urgent. Et puis, il se disait, bon, bah, il ne pensait pas qu'Alain arriverait jusqu'à la Transat.
Ouais.
Ah, ça, oui, ça, j'en suis certain. Oui.
Alors, quand il la gagne, là, pour le coup, probablement qu'il est très jaloux.
Oui, bah oui, il n'y a pas eu de petits mots, de messages, il n'y a rien eu.
Ouais.
Ça a été le silence.
Voilà, voilà. Faut pas trop gloser sur la transmission entre Tabarly et Colas. Ça,
mais
c'est pas fait.
Alain a toujours respecté Éric.
Alors c'est très gonflé que de ramener Panouik 4 tout seul quand même, parce qu'il a jamais de sa vie navigué en solitaire.
Oui, parce que c'était l'occasion.
Ouais.
Et ça, c'est Alain. Alain, toujours, on y va.
Mais vous étiez OK, moment... vous ? Je pense qu'il
ah, oui,
vous
oui,
demande
complètement.
Votre avis.
Non. Enfin, il me demande, il m'en parle à moi. Et moi, je suis forcément OK parce que je suis toujours dans tous les coups et je sais qu'il est capable de le faire.
Alors, sa victoire dans la Transat en 72, c'est ça qui le fait changer de statut. Il passe de l'absence absolue de notoriété à la célébrité. Ça change tout pour lui.
Ben, ça change tout, oui, parce qu'il voit la possibilité de pouvoir réaliser ce qu'il a envie. C'est ses envies les plus profondes. Hein. C'est-à-dire, de, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire le chef-d'œuvre. L'ouvrier va pouvoir faire son chef-d'œuvre et devenir lui aussi compagnon. Mmh. Hein, plus que compagnon. Hein. Et ça va être ce chef-d'œuvre, l'idée de faire le tour du monde, d'avoir le baptême du Cap Horn, être comme ces grands capitaines au long cours caporniers qui ont le droit de cracher au vent.
Mmh. Pourquoi ils changent le nom du bateau ? C'est pour couper le fil avec Tabarly définitivement ?
Oui, enfin, c'est venu des deux, hein, en fait. Hein.
Ah ouais.
Le coupage de fil. Hein.
Tabarly veut plus que ça s'appelle Panduik.
Oui, tout
ouais,
à fait.
Ouais. Ah. Panduik, c'est lui, quoi.
Oui, voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Donc, et finalement, ça dérange pas Alain.
Ouais.
Parce que Manureva, c'est le nom qu'il projetait de donner au bateau mythique qu'il a dans sa tête.
Ouais.
Ah, donc le bateau va...
Panduik 4 ou Panduik... Ça n'aurait pas fait une chanson.
Ah,
quoi.
Je sais pas, non. Mais en tout cas... Et puis le bateau, on va complètement le transformer, le caporniser, comme a dit Alain. On va lui donner des chevaux. Hein. Le mât va monter en section et en hauteur. La grand voile va être beaucoup plus grande. Il va y avoir des vrais chevaux. Et puis le bateau va être préparé pour ce qu'on... pense être les 40e rugissants, la difficulté, parce qu'à cette époque-là, il y a rien. Aucun marin, aucun bateau de ce type n'a été dans ces eaux. Et comment faire, comment réagir dans cette grande houle et dans les déferlantes?
Merci beaucoup, Jean-François Collat, d'être venu 40 ans après évoquer la mémoire de votre frère Alain Collat. Je suis très content d'avoir appris au plus jeune de nos auditeurs qui il était, parce que, évidemment, pour ma génération, c'est quelqu'un d'extrêmement important.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.